C'est Info Club Sandwich. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 21 avril 2026 et vous êtes en direct d'Info Club Sandwich réalisé par Radio Campus Amiens. Comme d'habitude, votre émission quotidienne locale et associative préférée est disponible sur le site radiocampusamiens.fr, le 87FM et sur le DAB+. On écoute tout de suite l'interview de Colline avec Mavicana Badinga dans laquelle elle parle de son spectacle « J'ai plusieurs terres ». Mavicana, bonjour.
Bonjour Colline.
Alors tu es artiste, metteuse en scène, comédienne, danseuse, créatrice sonore, tu fais également partie de la compagnie Yéna et tu viens parler de ton spectacle « J'ai plusieurs terres » qui se jouera de nouveau au Safran le 30 avril prochain. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux nous présenter cette compagnie créée en 2016 et qui produit le spectacle ?
Alors la compagnie Yéna, elle est née du désir de monter une pièce qui s'appelle Burnout, une pièce d'Alexandra Badea. Et donc, en janvier 2016, on a pu créer ce spectacle. Tout de suite, le ton était donné dans la direction artistique de la compagnie parce que c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à des textes contemporains. On aime bien l'idée d'utiliser des mots d'aujourd'hui pour parler du monde d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui nous permet du coup d'avoir des échanges hyper nourris. Enfin vraiment, on fait des super bords plateaux parce que ce qu'on propose, c'est de regarder le monde dans lequel on vit. Et sur des thématiques à chaque fois dans chaque spectacle qui évidemment ne sont pas pensées comme des thématiques pour faire débat, mais des choses qui nous touchent à cœur en tant que personnes vivant sur cette planète, quoi. Donc on est sur de l'écriture contemporaine. Sur des thématiques récentes, actuelles, et puis avec cette idée que ça doit être accessible à tout le monde. On n'a pas besoin de lire un lexique avant de venir voir un spectacle de la compagnie, quoi.
Et pour voir le monde dans lequel on vit actuellement, il faut aussi qu'on remonte un peu l'histoire.
Exact.
Et c'est ce que tu fais avec « J'ai plusieurs terres », entre autres.
Oui.
Ça parle de ton grand-père maternel, homme politique au Gabon, invisibilisé aujourd'hui. Dont l'intime et la politique se lient dans ce spectacle. Qui était-il ?
Alors, René-Paul Souzat. Donc, Souzat, c'est Da Souza, qui est donc un nom portugais qui a été francisé. Et donc, c'est important à savoir qu'il était métis, gabonais, franco-portugais. Ce qui fait que déjà, moi, je me retrouve quand même déjà sur un truc où il y a un peu de tout, dans le sang, on va dire. Et du coup, je comprends pas pourquoi je suis toujours assignée à certaines cases, à certaines visions. Et le personnage de mon grand-père, il arrive un peu par hasard dans l'écriture de la pièce parce que, au début, je voulais raconter qu'est-ce que c'est être noir en France aujourd'hui, parce que j'étais un peu, on va dire, fatiguée d'entendre des raccourcis, des maladresses, et toujours cette sensation qu'on veut régler le présent sans se demander comment on est arrivé à ce présent. Et voilà, le monde, il s'est pas fait ce matin. Il y avait des gens avant nous, il y a des décisions qui ont été prises. Et je trouve que le parcours de mon grand-père, il est très symbolique de ça. Pourquoi un homme qui est ministre de l'Agriculture, qui a été plusieurs fois député, qui a été journaliste, qui a été écrivain, qui a vraiment un très beau parcours, pourquoi cet homme disparaît pendant 50 ans de l'histoire ? Et il disparaît de l'histoire parce que la France-Afrique, c'est pas forcément un endroit de fierté, on va dire, politiquement pour la France. Et que, dans la politique du général de Gaulle, à l'époque, on lui applique ce qu'on appelle un damnatio memoriae, donc on décide volontairement de le faire disparaître de l'histoire. Donc moi qui grandis en tant que femme noire en France, qui manque de modèle, moi j'ai grandi entre les années 80 et les années 90, et il y a un moment où venir interroger, mais qu'est-ce qu'on fait de nos modèles ? C'est aussi nécessairement en faire ressurgir pour dire, vous voyez, si même lui, il disparaît, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Et puis aussi pour montrer que les gens disparaissent pas comme ça par hasard, parce que ça s'effrite. Non, c'est des volontés, en fait, au départ. Et pour un homme qui s'est battu pour l'indépendance de son pays, qui est venu combattre ici pour repousser l'invasion allemande, je trouvais qu'il méritait mieux que l'indifférence. Et donc, il est arrivé dans ce spectacle, il a commencé à prendre beaucoup de place et il y a toute une partie sur lui.
Alors, il est décédé quand ta mère avait 12 ans.
Oui.
Comment est-ce que toi, tu as découvert ton grand-père ?
Alors, je l'ai toujours connu parce que c'est une histoire que mes parents ont toujours assumée. Ça n'a jamais été un tabou, donc j'ai très vite grandi Après, ce qui est intéressant, c'est que moi, je croyais savoir, je le dis dans le spectacle, hein, des choses sur mon grand-père. En fait, j'en ai beaucoup découvertes là pendant l'écriture du spectacle. Par exemple, quand je te disais qu'il a été député, tout ça, ça, c'est des choses que je ne savais pas forcément à l'époque. Et d'ailleurs, ma mère aussi a découvert des choses, parce que bon, à 12 ans, c'était une enfant. Elle ne savait pas exactement tout ce que son père faisait quand il était sur le terrain politique. Donc, il y a une grande part de recherche qui a été faite au Gabon, dans les archives directement, grâce à un historien qui, depuis peu, n'est plus à la direction des archives, mais qui a été d'un grand soutien et qui apparaît aussi vocalement dans le spectacle.
Est-ce que cette recherche, tu parles donc de plusieurs terres parce que tu as plusieurs origines, portugaise, française, belge aussi.
Alors, je suis née en Belgique, mais je ne suis pas vraiment belge. Et c'est pareil, j'ai vécu 2 ans en Italie, c'est là que j'ai commencé mon métier et j'ai un attachement de cœur particulier à ce pays-là. C'est en fait, avec le temps, j'ai réussi à déplacer une question qui, quand j'étais jeune, enfin, un constat même qui était « personne ne veut de moi » parce que ici, je suis noire et au Gabon, bah, je suis européenne, je suis blanche presque. En fait, j'ai passé ce cap-là du « je suis de nulle part, personne ne veut de moi » à « je suis d'où je veux et je me fabrique comme j'ai envie ». Et donc, voilà, la question du métissage, c'est quelque chose qui m'a touchée de recevoir des insultes racistes. Mais en fait, mon grand-père, il était français. Ça n'a même pas de sens ce que tu me dis, quoi. Donc, cette quête-là, moi, elle me met en paix avec ce truc d'avoir... Parce que, en fait, dans les plusieurs terres, il y a effectivement la partie... Là, c'est très ethnique, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi la partie... du travail. Enfin, moi, mon travail, il est sur plein de terrains différents. J'ai aussi plusieurs terres artistiques. Et du coup, c'était aussi ça que je voulais raconter dans ce titre et dans ce spectacle.
Plusieurs domaines artistiques que tu utilises.
Tout à fait, qui viennent se marier au plateau. Ça, c'est une envie que j'avais depuis longtemps. Et je suis assez contente de ce qu'on a fait avec l'équipe de J'ai plusieurs terres. Donc, j'ai été quand même accompagnée en dramaturgie et en mise en scène avec parce qu'on l'a fait ensemble, hein, avec Julien Gros, donc qui est co-directeur de la compagnie avec moi, et Raquel Silva, qui a sa compagnie mais qui est venue avec nous sur ce projet. Je trouve qu'on a bien réussi à articuler un petit peu tout ce que j'aime faire dans mon métier. Et de le mettre au service d'un spectacle documentaire. Que c'est vrai qu'il y avait cet aspect-là de faire quelque chose de documentaire, mais de théâtral, quoi. De pas être dans la distance, parce que sinon, autant faire vraiment un documentaire. Là, si je convoque les gens au plateau, faut que ce soit un spectacle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que... Outre des extraits radiophoniques, des voix off, des interviews que j'ai pu faire, des extraits d'archives vidéo, des musiques aussi qui ne sont pas là par hasard. Avec tout ça, il y a le fait que je chante, que je danse, que c'est une interprétation très, très théâtrale, finalement, j'ai envie de dire.
Oui, on l'a pas dit, c'est un seul en scène. Tu es toute seule pour faire tout ça.
Oui.
Tu parles de plein de choses, d'extraits radiophoniques, vidéos. Justement, tu utilises dans ton spectacle un reportage de la télé suisse,
oui.
1978, le Gabon des Français. Que dit-il et pourquoi est-ce que c'est un très bon support de J'ai plusieurs terres ?
Alors, c'est un partenaire formidable parce qu'il vient démonter certaines idées reçues ou certaines choses qu'on n'imagine pas parce que c'est pas ça qu'on nous raconte de la France-Afrique. J'ai beaucoup vu, écrit, j'ai beaucoup entendu que oui, c'est bon, ils sont indépendants depuis les années 60, qu'ils se débrouillent. Moi, ce qui me plaisait justement, c'est que ce documentaire soit de 78, donc précisément, on est bien après l'indépendance. Et on voit qu'il y a plus de Français qu'avant au Gabon, et on voit le train de vie qu'ils ont. Et surtout, eux-mêmes témoignent face caméra et racontent un petit peu le privilège que c'est pour eux. Il y a un extrait que j'affectionne énormément parce que je sais qu'il fait toujours son petit effet. C'est qu'il y a une dame qui est en train de dire « Oui, avec tout le chômage qu'il y a en France en ce moment, nous, s'il n'y avait pas eu l'Afrique, c'était catastrophique. » Donc, je trouve ça intéressant parce que ça vient bouleverser justement ces espèces de raccourcis qu'on entend en permanence sur le terrain politique et médiatique. Et la vie nous raconte que non, en fait, il y a des gens qui ont vraiment profité de ce système et bien après ce qu'on a appelé donc les indépendances qui n'avaient finalement d'indépendance que le nom.
Oui, on voit aussi avec la scène de l'avion, quand ils achètent un avion.
Absolument.
Économiquement aussi.
Je recommande ce documentaire à tout le monde. C'est hyper important de se faire des petites piqûres de rappel historique juste pour savoir un petit peu comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui. Enfin, se rendre compte qu'il y a certaines phrases ne sont pas possibles en fait.
Et il est disponible, on peut le voir sur le site RTS.
Tout à fait, sur le site RTS, sur YouTube même, je crois qu'il est disponible. Enfin, ouais, il est très accessible.
Et donc justement, cette utilisation d'archives, donc c'est pas la seule archive que tu utilises, pourquoi est-ce qu'elle est importante pour cette quête de mémoire? C'est un terme que tu utilises, quête de mémoire. Pourquoi c'est important?
Parce que quand on oublie l'histoire, bon, c'est comme ça que je l'avais appris à l'école, c'est que l'histoire c'est aussi fait pour qu'on ne répète pas. Et force est de constater que ce n'est pas vraiment la fonction de l'histoire finalement. Mais en tout cas, si elle peut nous permettre de mettre de la perspective et de réfléchir un petit peu intelligemment à qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et de réfléchir collectivement parce que à la fin, on est tous un petit bout de la société, tous. Un petit bout de la société et en fait, on a le droit de faire des choix et je trouve qu'on nous a beaucoup privés de cette vision-là, de pouvoir faire des choix en tant que société. Je crois que pour pouvoir avoir l'impression d'avoir le choix, il faut se rappeler que des gens ont fait des choix avant nous aussi et que du coup, c'est pas une fatalité. Le monde dans lequel on habite aujourd'hui, il a été façonné par d'autres, mais nous, on peut façonner le monde dans lequel nos enfants vont grandir, quoi, en quelque sorte.
C'est pour ça que politiquement, elle est très importante, cette pièce.
Ouais, je pense qu'elle est importante. Je pense que, moi, je n'ai pas de problème avec l'idée qu'il y ait de la politique au théâtre. Je ne le défends pas comme un outil politique. En revanche, en tant que citoyenne, moi, je vis dans la cité et je pense qu'en tant que membre de cette cité, c'est important que j'apporte ma petite pierre. Si je connais une histoire qui, il me semble, n'est pas assez connue, je trouve ça intéressant d'avoir le théâtre pour pouvoir la raconter et la partager avec un maximum de gens. Ouais.
C'est aussi, tu rends visible donc, des personnes invisibilisées depuis longtemps, des modèles noirs. Donc là, je te cite, des modèles noirs dans la recherche scientifique, par exemple, des gens qui participent au progrès. Est-ce que ça rejoint aussi ce que tu disais de grandir peut-être sans forcément des modèles?
Alors oui, absolument, parce qu'effectivement, quand tu grandis avec, tu vois jamais à certains endroits des gens qui te ressemblent, tu as l'impression que c'est pas pour toi. Et puis aussi parce que j'ai pas envie de donner, ça c'est vraiment un choix que j'ai fait en écrivant cette pièce, de donner trop de place à certains discours parce qu'ils s'expriment bien assez sur le terrain médiatique, mais un jour il y a quand même un président de la République française qui a dit que l'homme africain n'était pas suffisamment entré dans l'histoire. C'est un truc que j'ai bien eu en travers de la gorge. Et je trouve ça hyper important parce que ce genre de phrase, ça rentre dans les têtes. Et puis on se dit oui, non, mais de toute façon, ils n'ont rien fait. Force est de constater que des gens d'Afrique et de sa diaspora ont participé, participent et continueront à participer à l'évolution de la société, en fait. Donc, pour moi, c'était hyper important de mettre de la lumière sur ces gens qui, moi, m'ont manqué quand je me construisais et qui, pourtant, n'auraient jamais dû disparaître de l'histoire, qui en font partie. Et ça soulève aussi vraiment cette question. Mais aujourd'hui, on le sait, qui écrit l'histoire et tout ça. Enfin, voilà, on le sait. Mais je trouve que c'est important de se le rappeler et du coup d'avoir une espèce de vigilance à faire ressurgir des gens comme ça qu'on essaye d'oublier parce qu'après ça facilite aussi toutes sortes de discours quoi. Et c'est trop facile.
Bon, si on revient un peu à la mise en scène, il y a donc des cubes graffés par Kofo, street artiste aminois. Donc il y a Dignité, Gabon et Mémoire. Comment est-ce que ça t'est venu comment est-ce que l'idée, t'est venue
Alors au départ, ces mots-là existaient en tant que titre dans une des premières versions écrites de la pièce. Il y a eu un sacré paquet de versions jusqu'à... On jouait la première un mardi, on a verrouillé le texte le dimanche. parce qu'on a vraiment dû le bouger jusqu'au bout. Parce que c'est ça aussi qui est fascinant dans le travail théâtral, c'est que tu peux avoir tout et que ça ne marche pas. Et nous, on a été confrontés à ça une semaine avant la première. Et heureusement que j'avais vraiment cette équipe formidable, voilà, avec qui on a cassé sa tête au texte, quoi. On a rebougé des choses. Et donc, il y avait ces titres dont je ne savais pas quoi faire, mais que j'avais envie quand même un peu de faire apparaître. Comment ils se sont retrouvés sur des cubes ? C'était, je pense, dans cette recherche de comment on pourrait les faire apparaître pour qu'ils jouent, pour qu'ils existent et que ce ne soit pas juste des titres, voilà, des annonces de chapitres. Et puis, l'idée de Kofo, en fait, déjà, moi, j'aime beaucoup son travail. Donc, je pense que ce n'était pas la première fois que je me disais un jour, j'aimerais bien travailler avec Kofo. Et puis, en fait, dans ce truc de l'art, vraiment, de faire entrer aussi, justement, un afro-descendant dans la scénographie, mais avec un objet artistique qui a aussi été beaucoup dévalorisé. Il y a un truc aussi avec le fait de minorer certains arts par rapport à d'autres. Et voilà, moi, le street art, je trouve que c'est un art à part entière. Et j'aime beaucoup le travail de Kofo. Et je trouvais ça trop beau qu'il puisse lui façonner. Parce qu'il y avait du coup la question de quelle police d'écriture on met sur les cubes. J'avais pas envie d'avoir une police, un truc qui existe déjà, qui n'a pas été... Et c'est là où j'ai dit, mais je crois que je demanderais bien à Kofo. Et en fait, ce qui est assez merveilleux, c'est que du coup, chaque cube est une œuvre d'art parce que sur ces lettres, qui déjà sont superbes, il y a des visages. Elle s'est habitée, en fait. Ce n'est pas juste des mots. Il y a des âmes derrière ces mots-là. Et du coup, bah ouais, c'est une vraie grande joie, vraiment, d'avoir ces cubes qui, pour moi, racontent aussi beaucoup sur... Comment l'art évolue, comment l'art change selon où on habite, quelles influences on met dedans, et puis que tous les arts sont nobles, en fait.
C'est encore une question d'identité, jusque dans la mise en scène.
Oui, ouais, c'est vrai que oui, absolument. L'identité, c'est vraiment le mot, je pense, qui accompagne cette création, tout à fait.
Alors, cette quête de mémoire, justement, pourquoi est-ce qu'elle t'a aidée, ou est-ce qu'elle t'aide même encore aujourd'hui dans celle que tu es ?
Alors, elle m'aide beaucoup dans le sens où je peux regarder en face et dire, voilà, c'est ça mon histoire, déjà, c'est tout bête, mais quand, en fait, le truc, c'est que moi, mon grand-père, du coup, comme je te disais, il a disparu de l'histoire pendant 50 ans, donc j'ai quand même grandi avec le nom d'un monsieur qui était important, d'après mes parents, mais qui n'existait pas dans l'espace public, qui n'existait pas dans les bouquins d'histoire, qui n'existait pas au musée de l'histoire de l'immigration et qui était pourtant quelqu'un d'hyper important. Et du coup, je pense qu'à une époque, j'aurais même pu commencer à devenir un peu parano et me demander si mes parents, ils n'en rajoutaient pas un petit peu. Après, j'ai eu la chance parfois de croiser des gens qui s'y connaissaient beaucoup en politique gabonaise ou des gens de sa génération qui disaient « Ah, Souzat, c'était quelqu'un ». Donc je me disais, si, ça, quand même, il a vraiment fait des trucs. Mais il aura fallu 2016 et un blog du journal Libération pour que vraiment il y ait une espèce de... où on ressuscite un peu sa mémoire. Donc c'est un historien gabonais qui avait décidé de parler de lui sur ce blog, où on parlait justement des mémoires oubliées. Et en fait, ce qui est assez beau, c'est que depuis 2016... quand je tape le nom de mon grand-père, alors ça m'arrive régulièrement de faire un petit check, il y a de plus en plus de choses qui ressortent sur lui. Je sais qu'au Gabon, il y a aussi des gens qui revendiquent de plus en plus son nom, le souvenir de ce qu'il a fait pour ce pays-là quand même, parce qu'aller dans un combat politique jusqu'à en mourir, c'est pas rien. Et puis, j'ai découvert il y a peu, ma mère m'a envoyé une photo donc, de Port-Gentil, l'endroit où il a été élu maire juste avant de mourir brutalement. Et il y a une rue René-Paul Souzat à Port-Gentil. Et voilà, il y a plein de choses qui font qu'il revient dans l'histoire et c'est mérité.
Alors, on a beaucoup parlé de ton grand-père, mais J'ai plusieurs terres, ça parle aussi de toi, de ce que tu as vécu. Il n'y a pas d'invention dans cette pièce. Est-ce que la transparence, c'était de base l'angle que tu voulais ?
Alors ce qui était intéressant, c'était l'aspect documentaire. Et justement, du coup, pour moi, il y avait un défi théâtral de comment faire un documentaire sur un plateau de théâtre qui soit vraiment du théâtre, où on ne se dit pas c'est du théâtre documentaire avec une certaine distance, tout ça. Et alors, il faut savoir quand même que j'avais un projet documentaire en 2016, en fait. Donc, j'avais fait un stage au CIFAP de Montreuil. Et c'est dans le cadre, d'ailleurs, de ce stage que j'ai rencontré le styliste dont je parle dans la pièce, qui est quand même une séquence assez, assez forte. Donc, je ne vais pas trop en parler parce que je veux que les gens aient envie de découvrir mon histoire avec ce grand styliste. Mais c'est vrai que le premier objet en fait, que j'ai voulu faire, c'était un documentaire sur qu'est-ce que c'est être noir en France aujourd'hui. Et puis, bah, moi, je suis quelqu'un de théâtre. Donc, quand on a commencé à m'expliquer les recherches de financement pour tourner un docu, tout ça, la flemme. Et puis, voilà, j'ai fait du théâtre, jusqu'au moment où c'est devenu une véritable urgence pour moi de parler de ça. Mais forcément, c'est aussi en écho avec une certaine banalisation de la violence envers les personnes non blanches. C'est aussi en réaction à ça que j'ai envie, moi, de porter ce texte, enfin, cette histoire au théâtre. Et puis, les rencontres se faisant, ça s'écrit comme un spectacle, mais je veux vraiment garder cette patte documentaire. Et du coup, vraiment, le défi, c'est comment faire un documentaire théâtral intéressant, on va dire. Et c'était un sacré challenge quand même.
Alors la première, elle avait eu lieu en janvier 2025.
Tout à fait.
Là, c'est rejoué au Safran. Et oui, ils vous ont rappelé. C'est rejoué donc le 30 avril. Il y a deux séances, 14h30 et 19h30. Pourquoi c'est important que ce spectacle continue de tourner ?
Bah, c'est hyper important parce que rien que les réactions des gens, c'est évident que c'est le genre de spectacle dont on a besoin aujourd'hui, quoi. Parce que je peux pas parler pour les gens. En tout cas, moi, ce que j'entends le plus, c'est merci. On ne savait pas que c'était aussi fort que ça, en fait. On ne se rendait pas compte. Parce qu'il y a ce mot France-Afrique et puis que ça a l'air un peu conceptuel, quoi. Oui, il y avait une exploitation économique, mais en fait, on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Et il se trouve que c'est souvent comme ça, hein, dans ces histoires-là. On va dire, il y a un clan qui se transmet l'histoire, puis il y a un clan qui apparemment n'a pas d'idée de ce qui s'est passé, quoi. Et en fait, quand je vois, moi, aujourd'hui, des gens, mais de toute génération, et c'est ça qui est beau, c'est que pour moi, faire du théâtre et avoir en face de moi des gens de couleurs différentes, d'âges différents, de sensibilités différentes, et quand même qu'à la fin, on sente une espèce d'élan collectif, les gens se lèvent, les gens sont émus, il y a des gens qui pleurent, il y en a qui me disent mais je savais pas, je m'en veux. Je dis non mais je suis pas là pour te culpabiliser, moi je raconte une histoire en fait. Et puis puis des jeunes, beaucoup de lycéens, on a eu notamment à Avignon, on a eu 200 lycéens de la région de plein d'endroits différents. Et le retour c'est mais on nous raconte pas ça à l'école. Merci quoi. Et en fait, c'est un peu dommage qu'on raconte pas ça à l'école. J'en ai aussi un peu souffert de ça parce que les imaginaires, après, ils se construisent avec ce qu'on leur donne. Donc, on peut pas trop s'étonner des dérives politiques d'aujourd'hui quand on voit le travail d'oubli organisé qui, voilà, c'est le fait, il est tellement énorme que c'est fou, ça passe, quoi. Mais pour moi, ce spectacle, c'est... C'est hyper important de le partager parce que c'est une façon très concrète d'aborder l'histoire de la France-Afrique avec quelqu'un qui en vient. J'ai pris l'habitude au moment de l'écriture de dire que j'étais une petite fille de la France-Afrique parce que, en fait, moi, le clan dans lequel je suis, on ne peut pas faire comme si cette histoire n'avait pas existé. On n'a pas ce luxe. Et donc, je trouve que c'est hyper important que tout le monde ait les mêmes infos. Parce que je pense que c'est vraiment le genre de choses qui peuvent nous aider à inventer ensemble, en fait, tout simplement, à savoir pourquoi on est au même endroit, qu'est-ce qui s'est passé avant nous, enfin, voilà, quoi. Je pense que ça peut aider à avancer.
Se poser des questions, oui, c'est important.
Je pense.
Et c'est pour ça que dès 11 ans, il est accessible, ce spectacle ?
Absolument, d'autant que la première scène... moi, c'est pareil, hein, le racisme, c'est un truc que je l'ai rencontré de plein fouet... à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans. Et donc il y a des enfants hein, qui vivent avec ça au quotidien. Après c'est sur la partie politique où je me disais faut quand même que ils soient un peu, enfin qu'ils puissent recevoir et comprendre de quoi on parlait tout. C'est pour ça que c'est 11 ans, mais sinon moi ce serait même 9 ans. Hein.
L'identité c'est quelque chose que chaque individu a du mal à connaître. On la façonne tout au long de sa vie. Est-ce que la tienne elle a évolué depuis que tu as joué J'ai plusieurs terres devant d'autres, par rapport à ces prises de conscience à
oui,
ce que tu as pu te nourrir?
Oui, parce que déjà, d'avoir pu exprimer ma colère, parce que c'est quand même un endroit de la colère qui crée ce genre de spectacle, déjà, ça fait du bien. Et puis, voir à quel point les gens reçoivent ça positivement et ne se méprennent pas, parce qu'il y a toujours ce truc du... oui, mais pourquoi tu voudrais que je me sente coupable ? Non, je t'ai pas accusée, je raconte une histoire. Et je pense qu'on a vraiment réussi ce travail-là de faire que les gens, ils se sentent, on les emmène avec nous, en fait. Et du coup, de voir à quel point les gens sont prêts à entendre ce genre d'histoire, et même, même en redemande en réalité, ça m'a apaisée quelque part. Ça m'a redonné aussi un peu espoir en l'humanité. De temps en temps, ça fait du bien. Et ça me permet de me dire aussi que mon métier, il a vraiment, vraiment un sens dans la cité, tu vois, au sens citoyen du terme. Et qu'on pourra toujours avoir des gens qui un jour disent que ce n'est pas nécessaire. Moi, la vérité, je la connais, je la vis avec le public. Et du coup, oui, ce spectacle, il est venu apaiser quelque chose dans un truc de... moins, alors je pense que c'est aussi l'âge, hein, mais un truc de moins revendiqué que de juste vivre aussi un peu pour soi. Des fois, ça fait du bien, quoi. Et de se détacher de certains, on va dire, délits de faciès pour aller très très vite. Tout ce que les gens peuvent projeter sur moi parce que leur imaginaire, parce que ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont vu, voilà. Ça me rend plus forte aussi. Et puis, en étant maman... ça me permet aussi de transmettre quelque chose à mes enfants pour qu'ils se sentent plus forts plus tôt aussi, qu'ils puissent s'emparer aussi d'un bout de leur histoire le plus tôt possible.
Et se construire aussi par rapport à tout ça.
Tout à fait.
Avant qu'on se quitte, la pièce, elle est aussi disponible en livre ?
Tout à fait. C'est donc devenu un texte qui a été publié par les éditions Koiné. Il a été édité il y a un an, tout juste, un petit peu moins, c'était juste avant le Festival d'Avignon. Il est disponible partout, on peut le commander dans toutes les bonnes librairies et même les autres. Et puis il y a la vie du livre aussi, du coup, et c'est pareil, c'est chouette d'avoir aussi des gens qui sont en réaction à l'écriture et qui n'ont pas vu le spectacle. Et le livre, ce qui est important, c'est que c'est vraiment pensé pour pouvoir exister sans le spectacle. Donc, il n'y a aucune didascalie. À aucun moment, on essaye de restituer ce qui se passe sur scène. Mais c'est vraiment le texte. Il y a même des choses qu'il y a sur scène qu'il n'y a pas dans le livre. C'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir, même si on n'a pas vu le spectacle et qu'on n'en a pas l'intention.
Et alors, tu me disais avant qu'on continue cette interview qu'il revenait aussi la saison prochaine ?
Tout à fait. La saison prochaine, J'ai plusieurs terres, va continuer à rencontrer du public. On va retourner à Lille. On y a joué deux fois cette année à l'université et au Théâtre Massenet. La saison prochaine, on y retournera au Théâtre du Nord. On va jouer à Armentières aussi, au Vivat. On va aller à Châtillon. Il y a des petits qui arrivent encore. On va jouer sur la communauté de communes Nièvre et Somme. On va jouer à plein d'endroits pour continuer à diffuser cette histoire, à la partager avec plein de gens.
Alors, merci beaucoup, Mavicana.
Merci beaucoup à toi, Colline.
Alors, je rappelle que le spectacle, il est joué le 30 avril au Safran, 14h30 et 19h30. On peut retrouver aussi toutes les informations de la compagnie sur leur site internet, donc Yaena, Yaena.fr. Un mot pour terminer tout ça ?
L'histoire, ça fait pas mal. Et là, je cite quelqu'un que j'avais vu dans un documentaire. Identité, c'est pas un gros mot.
Merci beaucoup, Mavicana.
Merci. Thank you.
me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida y hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida.
D'écouter La Mentira de Luis Miguel, vous êtes toujours sur Info Club Sandwich. Et pour terminer l'émission, je vais vous parler d'un sujet qui touche plus de personnes qu'on le croit, la dépendance affective. La dépendance affective, selon Internet, c'est quand l'estime de soi dépend entièrement du regard de l'autre, mais je dirais que c'est bien plus que ça. J'aimerais d'abord partager une anecdote personnelle avant de continuer. Quand j'étais au lycée, je traînais toujours sur TikTok et j'entendais parler de dépendance affective. Ça a attiré ma curiosité à l'époque. En fait, je comprenais pas comment on pouvait dépendre de la vie de quelqu'un, jusqu'à ce que je vive ça moi aussi. Et c'est là que j'ai compris que c'était un sujet sérieux et que ça pouvait arriver à n'importe qui. À l'époque, c'était une honte pour moi, j'avais l'impression que c'était un problème de confiance en soi et que le problème venait entièrement de moi. Mais en réalité, la dépendance affective, c'est bien plus profond qu'un manque de confiance en soi. Mon bonheur, dépendait entièrement de l'autre personne, de ce qu'elle pensait de moi et de ce qu'elle disait. La dépendance affective comble un manque qu'on a, et pour combler ce manque, une personne va prendre une place énorme dans notre vie. Elle devient un peu notre repère, notre source de bonheur, parfois même notre seule source de validation. Et sans s'en rendre compte, on commence à s'oublier complètement. Mais du coup, ça vient d'où ça ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on choisit ? Spoiler, pas du tout. J'ai fait quelques recherches, notamment sur des articles de psychologie. Et en fait, la dépendance affective, elle sort pas de nulle part. Elle peut être liée à des traumatismes, comme des abus ou des violences psychologiques. Mais aussi à des choses qu'on pense moins graves, comme le rejet, le manque d'attention, ou même des petites blessures répétées dans l'enfance. Et surtout, il y a un truc qui revient tout le temps, la peur de l'abandon. Cette peur peut être tellement forte qu'elle pousse une personne à s'accrocher à quelqu'un, même si la relation lui fait du mal. En gros, c'est pas juste un manque de confiance, c'est souvent des blessures beaucoup plus profondes qui influencent notre façon d'aimer. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que même notre cerveau joue un rôle là-dedans. Selon les neurosciences, la dépendance affective, c'est aussi une question de chimie dans le cerveau. Par exemple, certaines zones liées aux émotions sont plus actives, comme l'amygdale, et les circuits du plaisir liés à la dopamine peuvent devenir accros à la présence de l'autre. En gros, être avec la personne nous fait du bien, et du coup, le cerveau en redemande encore et encore, et à l'inverse, quand la personne n'est pas là, ça peut créer un vrai manque, presque comme une addiction. De plus, le cortex préfrontal, qui est un peu le chef d'orchestre du cerveau, qui est responsable de la prise de décision par exemple, est moins efficace chez les personnes dépendantes affectives. Donc en fait, c'est pas juste dans la tête, c'est aussi dans le cerveau. Alors, est-ce qu'il y a une solution ? Oui, et heureusement, des chercheurs et chercheuses expliquent qu'avec un accompagnement, notamment une thérapie, le cerveau peut évoluer, il peut apprendre à créer des liens plus sains, à se détacher progressivement et surtout à reconstruire une estime de soi plus solide. Et non, c'est pas un reset magique, c'est un vrai travail qui prend du temps. Donc non, la dépendance affective, c'est pas juste être trop amoureux ou trop attaché. C'est quelque chose de complexe qui mélange émotions, vécu et même fonctionnement du cerveau. Alors au lieu de juger, on doit comprendre parce que derrière, il y a souvent quelqu'un qui a appris à aimer avec ses blessures et surtout, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, Info Club Sandwich est déjà terminé pour aujourd'hui. On se quitte comme d'habitude en musique avec Too Many Girls de The Mystery Light. On se retrouve vite à demain pour une nouvelle émission.